Messer Ptolemy, vous venez d'exprimer tout juste les choses que je veux accomplir, dit alors Valois se rengorgeant. Aussi, je vous demande de marcher de confiance avec moi. Les financiers ne sont pas moins imaginatifs que les conquérants, et c'est mal les connaître que de les croire uniquement inspirés par l'appât du gain. Leurs calculs souvent dissimulent des songes abstraits de puissance. Le capitaine général des Lombards rêvait lui aussi, d'autre manière que le comte de Valois, mais il rêvait. Il se voyait déjà fournissant en or brut les grands barons du royaume et dirigeant leurs querelles puisqu'il en négociait l'armement. Or, qui tient l'or et tient les armes, détient le vrai pouvoir. Mais certes, Ptolemy jouait avec des pensées de règne. « Alors, reprit Valois, êtes-vous décidé maintenant à me procurer la somme que je vous ai demandée ?»«
Peut-être, monseigneur, peut-être. Non que je sois en mesure de vous la donner moi-même, mais je puis sans doute vous la trouver en Italie, ce qui conviendrait fort bien puisque c'est là justement que se rend votre ambassade. Pour vous, cela ne fait point de différence. »
Certes non, fut obligé de répondre Valois. Mais l'arrangement était loin de combler ses vœux, lui rendant difficile, sinon même impossible, de puiser dans le prêt pour ses propres nécessités. Voyant Valois se rembrunir, Ptolemy poussa le fer plus avant.
Vous offrirez la garantie du trésor. Mais chacun sait chez nous en tout cas que le trésor est vide. Et ces bruits-là vont vite à courir entre les comptoirs de banque. Je devrais donc engager ma propre garantie, et le ferai de grand cœur, monseigneur, pour vous servir. Mais il sera nécessaire qu'un homme de ma compagnie, porteur des lettres de change, escorte votre envoyé, afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable.
Valois se renfrognait de plus en plus.
« Eh, monseigneur, dit Ptolemy, c'est que je ne vais point agir seul en cette affaire. Les compagnies d'Italie sont encore plus méfiantes que les nôtres, et j'ai besoin de leur donner toute assurance qu'elles ne seront point bernées. »
En vérité, il voulait avoir un émissaire dans l'expédition, un émissaire qui allait en son nom et pour son compte espionner l'ambassadeur, contrôler l'emploi des fonds, se faire instruire des projets d'alliance, connaître les dispositions des cardinaux et travailler en sous-main dans le sens qu'il lui commanderait. Messer Spinello Ptolemy régnait déjà un tout petit peu. Robert d'Artois avait dit à Valois que le Siennois exigerait un gage. Il n'avait pas encore pensé que le gage, ce pouvait être un morceau du pouvoir. Force était à l'oncle du roi, et pour satisfaire celui-ci, d'en passer par les conditions du banquier.
« Et qui donc allez-vous désigner, qui ne fasse point mauvaise figure auprès de messire de Bouville ?» demanda Valois.
« Je vais y penser, monseigneur, je vais y penser. Je n'ai guère de monde en ce moment. Mes deux meilleurs voyageurs sont sur les routes. Quand donc messire de Bouville devrait-il partir ?»«
Mais demain, s'il se peut, ou le jour d'après ?»«
Et ce garçon, suggéra Robert d'Artois, qui était allé pour moi en Angleterre ?»«
Mon neveu Guccio,
dit Ptolemy. »
« C'est cela même, votre neveu. Vous l'avez toujours auprès de vous. Eh bien, que l'envoyez-vous ? Il est fin, délié d'esprit, il a bonne tournure. Il aidera notre ami Bouville, qui ne doit guère parler le langage d'Italie, à se débrouiller sur les chemins. Soyez rassuré, mon cousin, ajouta d'Artois, s'adressant à Valois, ce garçon-là est de bonne recrue. »«
Il va fort me manquer ici, dit Ptolemy. Mais, soit, monseigneur, je vous l'abandonne. » « Il est dit que vous obtiendrez toujours de moi tout ce que vous souhaitez. »
Bientôt après, il prit congé. Dès que Ptolemy fut sorti du cabinet, Robert d'Artois s'étira un grand coup et dit
« Eh bien, Charles, m'étais-je trompé ?»
Comme tout emprunteur après une négociation de cette nature, Valois était à la fois content et mécontent. Et il se composa une attitude qui ne montra ni trop son soulagement ni trop son dépit. S'arrêtant à son tour devant le pied de Saint-Louis, il dit
« C'est cela, voyez-vous, cousin, c'est la vue de cette sainte relique qui a décidé votre homme. Allons, tout respect de ce qui est noble n'est point perdu en France, et ce royaume peut être redressé. »
« Un miracle, en quelque sorte, » dit le géant en clignant de l'œil. Ils réclamèrent leurs manteaux et leurs escortes pour aller porter au roi la bonne nouvelle du départ de l'ambassade. Dans le même temps, Ptolemy informait son neveu Guccio Baglioni d'avoir à se mettre en route dans les deux jours, et lui énumérait ses instructions. Le jeune homme ne témoigna pas d'un grand enthousiasme.
« Come sei strano, tiglio mio !» s'écria Ptolemy.
« Comme tu es étrange, mon garçon !»«
Le sort te donne l'occasion d'un beau voyage.
sans qu'il t'en coûte un denier, puisque c'est le trésor au bout du compte qui paiera. Tu vas connaître Naples, la cour des Angevins, y côtoyer les princes, et, si tu es habile, t'y faire des amis. Et peut-être vas-tu assister aux préliminaires d'un conclave, ces choses passionnantes qu'un conclave. Ambition, pression, argent, rivalité, et même la foi chez certains. Tous les intérêts du monde jouent dans la partie. Tu vas voir cela. Et tu me fais la face longue, comme si je t'apprenais un malheur.
À ta place et à ton âge, j'aurais sauté de joie, et je serais déjà à boucler mon porte-manteau.
Pour prendre cette figure, il faut qu'il y ait une fille que tu regrettes de quitter. Ne serait-ce pas la demoiselle de Crécy, par hasard?
Le teint couleur d'huile d'olive du jeune Guccio fonça un peu, ce qui était sa façon de rougir.
« Elle t'attendra si elle t'aime, » reprit le banquier.
« Les femmes sont faites pour attendre.
On les retrouve toujours. Et si tu crains qu'elle ne t'oublie, profite donc de celle que tu rencontreras sur ton chemin. La seule chose qu'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force pour courir le monde.